Chapitre 15. Dans la chambre tranquille aux boiseries grises, Esther était assise sur le vieux sofa de damas vert et jaune, un livre à la main. Dès qu'elle aperçut son amie qui entrait, elle se leva avec impétuosité. « Ah, mon pauvre Donna ! » s'écria-t-elle. Et, tout d'un élan, elle l'embrassa comme elle aurait embrassé son frère. Elle lui mit son bras autour du cou, elle considéra en secouant la tête d'un air chagrin ce visage encore bouleversé, meurtri par les larmes. « Dire que nous étions si fiers de toi hier et qu'aujourd'hui il faut te plaindre. Viens, viens t'asseoir ici que je te console. » Elle l'entraînait, le faisait asseoir dans le coin du sofa, en face d'elle. Elle se penchait, lui prenait la main, lui parlait sans cesser, comme si elle l'arrachait d'un courant pour le jeter dans un autre. « Ils ont tous dit comme moi que tu t'es conduit magnifiquement. Après cette gloire de ton maximum, ce contraste... Pierre Campbell a dit que la roche tarpéienne était près du Capitole, mais il a dit avec sympathie, tu comprends ? Tu as été sublime. Jamais je n'oublierai cet instant quand tu nous as regardés, blanc comme un linge, et que tu as dit « Je vais avec mon père, allez de votre côté. » Oui, c'était sublime, tout simplement. « Oh, mon pauvre Donna, ce n'est pas croyable que cet homme-là soit ton père. D'abord, tu ne lui ressembles pas du tout de figure. Lucette Marchand le disait aussi. Elle te trouve très beau. Moi, à vrai dire, je n'y ai jamais pensé. » « Tu m'étourdis, » fit-il un peu durement. L'idée que ses six camarades, réunis chez le pâtissier, avaient discuté son attitude tout en grignotant leur petit gâteau, cette idée lui était intolérable. « C'est que je suis excitée, et il y a de quoi, » fit Esther. « Tant de choses en un jour. Nos 7 diplômes, et puis cette péripétie. Mais nous étions déconfits de rentrer sans toi. » Et sur le quai, chacun nous questionnait, car nous avions téléphoné, Donna maximum. Sans doute, tu as voulu agir pour le mieux, mais tu as gâté notre arrivée, je t'assure. « Tu aurais eu du plaisir à voyager avec mon père ? » demanda-t-il d'un ton brusque. « Oh, tu l'aurais mis en fumeur, il aurait compris. » Donna ne répondit rien. Le fossé se creusait, la muraille s'élevait, comme si chaque parole eût été un coup de pioche et chaque pensée une pierre. « Et tu as déjà un remplacement, » reprit Esther. « Tu ne chômeras pas. Moi, papa veut que je me repose un peu. Je n'accepterai rien avant l'automne. On me gâte. J'ai une invitation. » Elle hésitait un peu. « Tu sais que le dernier cours de danse commencera lundi. Roger Lestienne m'a invité hier soir dans le train. » Campbell invite Laurette. Ces garçons étaient un peu fous. Figure-toi que dans le wagon, ils dansaient une bourrée d'Auvergne. Tu aurais dû voir cette esthète de Roger se démener comme un pantin. Papa m'a permis de prendre le cours. Il dit que ça ne me fera pas de mal de gigoter un peu. 4 semaines à 3 leçons par semaine. L'an prochain, nous prendrons le cours de perfectionnement, mais cela m'aura toujours un peu dégrossi. « C'est si ennuyeux de ne pas savoir danser. Tu ne prendrais pas ce cours, toi » demanda-t-elle, gênée tout à coup d'avoir parlé toute seule si longtemps. « Es-tu folle ? J'ai autre chose à faire, » dit-il. « Ah, tu es de mauvaise humeur, mais je te comprends et je te pardonne, » dit-elle amicalement. « Tu as tant d'affaires sur les bras. Quand iras-tu remercier nos professeurs ?»« Aujourd'hui, je pense, si je pars demain. » « Oui, comme c'est subi, l'école de Pertan ne méritera plus son nom dès que tu y seras. »« Je continuerai à étudier, puisque j'ai réussi, » fit Donna. « J'y mettrai plus de temps que les tiennes, puisque je gagnerai ma vie en préparant mon degré. Mais j'y arriverai une fois ou l'autre. »« Certainement, tu y arriveras, » dit Esther avec chaleur. « Et quand je serai devenu instituteur de première, ou même professeur, quand j'aurai quelque chose à offrir, me permettras-tu, Esther, » fit-il, le cœur lui battant si fort qu'il s'entendait à peine parler, « me permettras-tu de... penser à toi ?» Elle recula, saisie, dans l'autre coin du canapé, et ses yeux s'élargissaient comme des taches d'ombre transparentes dans son joli visage qui avait pâli. « Peut-être ai-je mal fait de te parler aujourd'hui, » reprit-il d'un ton plus rapide, plus ardent. « Mais tout va changer. Tout est déjà changé. Demain, je gagnerai ma vie. Je te quitterai. D'autres te parleront. Pourtant, je suis le premier, n'est-ce pas? Tu te souviens du soir de l'an? Cela tient toujours pour moi. Et pour toi. « Mais je n'ai que 16 ans et demi, fit-elle l'air concerné. Tu n'en as pas encore 18. Oui, je t'aime. Mais que veux-tu que je te dise ?»« Je veux que tu me promettes de m'attendre 5 ans, fit-il, plein de cette naïveté audacieuse qu'il avait toujours bien servi. « Tu ne doutes de rien ?» fit Esther, essayant de rire. « Si, je doute de bien des choses. Je ne doute pas de ce que tu m'as dit toi-même. « Oh, des enfantillages » murmura-t-elle, contrariée. Il la regardait, et ses yeux étaient une caresse muette, timide, qui effleurait à peine les jolis cheveux châtains ondulés près de l'oreille, la ligne blanche du cou, le menton rond et volontaire, et les lèvres, ces douces lèvres ignorantes qui, tout à l'heure, fraternellement, avaient touché sa joue. Il dit enfin « Si je n'avais pas de père, répondrais-tu autrement ?» Esther tressaillit. On aurait pu croire qu'une image se dressait tout à coup devant elle. « Pauvre Donna !» dit-elle à voix basse. Elle baissait les yeux sur ses doigts entrelacés, elle fronçait le sourcil, ses lèvres avaient un léger pli où Donna s'imagina lire du dédain. « Je sais ce que je voulais savoir !» dit-il avec violence. « Non, non, je t'assure !» dit Esther, étendant la main vers lui. « Donna, ne te fâche pas. Ton père, ça ne fait aucune différence. Mais nous sommes trop jeunes, je suis trop jeune, je ne sais pas. »« Tu as raison, » dit-il avec effort. Il sortit sans rien ajouter. Il alla dans sa chambre mettre en ordre ses livres, prépara ses petites affaires pour le prompt départ. Il essayait de ne penser qu'à cette école qui l'attendait. Pendant le repas de midi, on ne parla que de cela. « Tu as vraiment beaucoup de chance. Tu pourras commencer tout de suite à rembourser la commune, » fit observer Madame Jean-Richard d'un ton pénétré. Vers 3 heures, Esther et Donna se dirigèrent ensemble vers le collège, où, dans la cour plantée de vieux ormes, les professeurs se promenaient de long en large pendant la récréation. Ils y étaient tous, s'attendant un peu à la visite de leurs 7 élèves chargés de gloire. L'entretien ne manqua pas d'une certaine solennité. Le professeur de géographie, qui avait fait partie du jury, communiqua ses impressions. Il dit à Esther « Votre description des fjords de Norvège a été remarquable. » Et à Roger Létienne « On a trouvé votre élocution distinguée. On regrette que vous n'entriez pas dans la carrière pédagogique. » Le directeur, un homme redouté et caustique, les pria de ne pas s'imaginer que le système solaire eût reçu la moindre commotion, et ils s'accordèrent tous les 7 pour déclarer ensuite cette remarque parfaitement désagréable et superflue. Ils présentèrent leurs remerciements en bons termes. Les professeurs leur firent des vœux, le directeur leur serra la main et termina l'entrevue en disant « La Terre recommence à tourner ». Les 3 jeunes gens, les 4 jeunes filles sortirent de la cour, mais restèrent un instant groupés près de la grille. « C'est triste de se séparer !» exclama Létienne. « Quand se revoit-on ? Venez prendre le thé dans notre jardin, demain à 4 heures. C'est dit ?» Ils acceptèrent, avec des exclamations de plaisir. « Moi, je pars demain matin, » dit Donna. « Je prends congé de vous maintenant. » « On se reverra, ma vieille branche. L'école de Pertan, ce n'est pas le bout du monde. Nous irons te faire visite. » Un sentiment d'isolement tombait sur Donna. Il se voyait déjà passant en marge, séparé de ses camarades, et dans un chagrin déraisonnable mais cruel, il se disait « Ce sera toujours ainsi. » Esther marchait sur le trottoir, fort silencieuse, et lui, tâchant de retrouver quelque fortitude, quelque reflet de la grande flambée de soleil qui l'illuminait hier, songeait « J'ai mon diplôme et déjà une école. Le chemin ouvert, tous les buts devant moi, je n'ai qu'à choisir. Ce qu'Esther voudra que je sois, je le serai. » Tout à coup, Esther se tourna vers lui et se mit à parler, si bas qu'il dut se pencher et prêter l'oreille. Donna, écoute, je ne voudrais pas te faire de la peine, mais il vaut mieux être sincère, n'est-ce pas? Je t'ai dit ce matin que ton père ne fait aucune différence pour mes idées d'avenir, mais je sens très bien que je ne pourrai pas. D'ailleurs, nous sommes trop jeunes, comme je te l'ai dit aussi. Ne garde pas cette espérance. Voilà, j'ai parlé franchement. » Donna se souvint d'un homme qui, ayant reçu dans la poitrine une balle mortelle, fit encore plusieurs pas comme s'il n'avait rien senti. Lui aussi, atteint par la balle, continuait à marcher et ne sentait rien. Il regardait fixement le grand mur de la terrasse sur laquelle se dressait l'église. Les coulées d'humidité verdâtre, les touffes d'herbes sèches entre les pierres, un petit tas de glace sale qui achevait de fondre dans un coin à l'ombre. « Je me promènerai. Rentre, » dit-il, l'air vague, un peu égaré. Esther, inquiète, bien que persuadée d'avoir agi fort correctement, le pressa de rentrer avec elle. Il ne l'écouta pas, il entendait à peine. Il la quitta. Au hasard, par une ruelle, par un chemin grimpant, puis au fond d'un ravin encore rempli de neige, puis rejoignant la grande route, il erra pendant plusieurs heures. Il n'essayait pas de comprendre, il ne sentait que le poids d'une fatalité. « Enfant de commune et fils de mon père », se répétait-il comme le matin à satiété, jusqu'à ce que les mots s'évaporassent en un son dénué de sens. Il n'avait plus foi dans la vie, ni en rien. Le travail n'avait plus la vertu qu'il croyait. Un père, un fils, marchaient côte à côte dans l'étendue vide qui ne finissait nulle part. La première étape n'aboutissait pas. C'était l'étonnement aussi bien que la souffrance qui arrêtait presque les battements de son cœur. Jamais il n'aurait cru que toutes les certitudes puissent crouler ainsi en moins d'un jour. Et Donna n'avait pas 18 ans, et tandis qu'il fermait les portes de l'espérance, devant lui s'étendait la vie, inépuisable en ressources et merveilleuse en moyens.